Bonjour, je m'appelle Julia Foyce, je suis journaliste et j'ai eu très envie de comprendre de l'intérieur ce qu'on vivait, comment on le vivait, quand on a un corps qui sort de la norme. Parce qu'il est trans, parce qu'il est noir ou gros, accidenté, handicapé, le podcast « Ma différence à moi » donne les clés du volant à celles et ceux qui ont quitté des routes bien balisées pour suivre des chemins plus singuliers. J'en avais marre qu'on parle à leur place, je voulais qu'on les entende se raconter, qu'on les laisse exister sans filtre, sans intermédiaire, aucun. L'espace de quelques jours, Lou, Kiemis, Julie, Martin et Bérénice ont enregistré des notes vocales sur leur smartphone et me les ont envoyées. Réception, écoute, assemblage, montage, et voilà leur carnet de bord version 5G. Vous, dans ce cinquième épisode, vous allez donc passer 40 minutes dans la tête de Bérénice Magistretti. Laissez-vous porter.
Ok, alors on est parti. Viens, Oscar. Viens. Oui, on y va. Je me prépare pour aller promener mon chien Oscar, qui est un magnifique Bruno du Jura, noir et brun clair. Il a bientôt 5 ans. Alors, ce n'est pas du tout un chien de guide ou un chien d'aveugle. C'est notre chien de famille. Et c'est un peu mon bébé, mon gros bébé. On va aller se balader dans la nature, à la montagne, en Suisse, prendre l'air frais. Je prends pas ma canne parce que c'est des routes super sécurisées, plates, et puis je suis toujours avec quelqu'un. Donc, je marche bras dans les bras avec la personne et on tient Oscar à la laisse ou parfois on le lâche. Alors, on va aller dans la voiture, derrière, et on est parti. Je suis avec mon papy. Et on va aller se balader.
Longtemps, Bérénice Magistretti n'a pas voulu sortir sa canne. Atteinte d'une dégénérescence de la rétine, sa vue baisse graduellement depuis près de 20 ans. Mais laisser apparaître son handicap au bout de ce bâton en plastique blanc qui ne te mène qu'au stigmate, jamais. Journaliste de formation, elle a cherché. Issue d'une famille de designers, elle a trouvé. Sa canne, en cuir et bois d'olivier, à 35 ans, elle a pu la porter comme un accessoire de mode, comme un prolongement d'elle-même qu'elle était fière de montrer. C'était il y a près de 2 ans. Depuis, entre Milan, Londres et la Suisse, elle travaille et elle se bat pour que l'accessible soit beau et que le beau devienne accessible. Ce sont ses mots, c'est sa vision, elle nous emporte.
Ah, ce que c'est beau, cette vue! Incroyable! Donc là, on voit quoi comme montagne en face?
Il y a le Weisshorn, juste avant le Bisshorn, puis plus proche de nous, tu as le village de Vercors.
Mm-hmm. C'est tellement beau et serein et calme. Je suis née à Genève, j'ai grandi à Lausanne et on venait toujours passer des week-ends, des vacances à Crans-Montana, que ce soit pour skier ou faire des pique-niques l'été ou faire Pâques, enfin voilà. C'était toujours un endroit où on avait des beaux moments en famille, avec mes grands-parents aussi. Ouais, la Suisse, c'est un pays que j'aime beaucoup, il a une grande place dans mon cœur. Même si je me suis toujours sentie plus italienne, parce que je suis moitié italienne, mon papa est italien et que je me suis toujours sentie plus proche de la culture italienne, du lifestyle italien, enfin voilà. C'est aussi pour ça que j'ai choisi d'être basée à Milan. Mais c'est vrai que la Suisse a toujours été un refuge pour moi, où quand j'ai des moments où je dois souffler et me reposer, déconnecter un peu, je viens ici, prendre l'air frais, absorber le calme, passer du temps avec mon chien Oscar. C'est vraiment un peu un cocon enneigé en ce moment, mais un cocon quand même, entre l'amour de ma famille, l'amour d'Oscar, la beauté de la nature autour de moi, qui m'aide à me ressourcer, me réénergiser. Voilà, on rentre à la maison. Oscar est dans la voiture. Hein, Lulu, t'es contente de la balade? Je suis rentrée de ma promenade. pour moi, c'est toujours un moment de bonheur où je peux vraiment complètement me relaxer parce que je ne suis pas dans une grande ville avec du bruit, des klaxons, des gens qui crient, des gens qui passent, qui sont pressés, stressés. Et voilà, même si j'ai ma canne avec moi quand je suis en ville, c'est de l'hyperstimulation permanente pour mes autres sens qui sont quand même beaucoup plus développés vu que voilà, ma vision est quand même très diminuée. Bah, du coup, mes autres sens prennent le dessus. Quand je suis en ville, je suis toujours très vigilante. Je fais attention, j'ai peur de trébucher, de me cogner à quelque chose. Et dans la nature, je peux vraiment me relaxer. Alors là, je vais vous présenter une de mes cannes, qui est ma canne moche. Voilà. Parce que je la trouve vraiment pas très jolie esthétiquement parlant. C'est plutôt une canne fonctionnelle que j'utilise pour voyager parce que, bon, là, si elle s'abîme, je m'en fous. C'est une canne que j'ai commandée sur un site web américain qui, voilà, selon moi, fabrique les cannes les moins moches pour les aveugles et les malvoyants. Sachant que moi, je me considère malvoyante, pas aveugle. Et c'est une distinction importante à faire parce que on vit dans une société qui voit et perçoit les handicaps de manière très binaire. Donc, où on est complètement aveugle, où on a une vision parfaite, ce qui n'est pas du tout le cas. On peut être malvoyant, on peut être aveugle d'un œil, on peut être complètement aveugle, on peut avoir des cataractes, des glaucomes. Moi, personnellement, j'ai une dégénérescence de la rétine. C'est une perte de vue graduelle. Donc voilà, il y a beaucoup de nuances. Et donc voilà, moi, j'utilise une canne, mais je ne suis pas aveugle. Je n'ai pas de chien de guide ou de chien d'aveugle. J'ai une canne surtout pour me rassurer et pour montrer aux autres aussi que j'ai un trouble de la vision et que j'ai peut-être besoin d'un peu plus d'aide pour certaines choses. Et donc, j'ai cette canne fonctionnelle, noire et blanche, qui a une boule rouge au bout, qui roule. Quand je tapisse le sol avec, elle roule par-dessus tout, en 360 degrés. Ça m'aide un peu à sentir ce qu'il y a au sol. Mais voilà, c'est une canne fonctionnelle. Et comme je suis quelqu'un qui adore la mode, les belles choses, l'esthétique, le design, venant quand même d'une famille de designers italiens, je me suis très vite rendu compte qu'il n'y avait pas de belles cannes, en fait, pour les malvoyants ou les aveugles. Et donc, j'ai décidé de créer la mienne. Alors, j'en ai une autre qui m'attend à Milan, qui est la belle canne. Au début, pendant les 10-15 premières années de ma perte de vue graduelle, je naviguais encore très bien sans canne. Et donc, je vivais avec un handicap invisible. Donc, j'avais toujours cette option de le divulguer, d'en parler ou pas. Et pendant très longtemps, j'ai choisi de ne pas le divulguer, de ne pas en parler parce que j'avais honte. Et en fait, ça devenait tellement épuisant à un moment donné de vouloir le cacher ou le dissimuler que j'ai commencé à en parler. Et ça, c'était il y a 5-6 ans. Et c'était une libération énorme de pouvoir dire aux autres et de pouvoir partager avec les autres ce que je vivais en fait au quotidien. Mais après, ma vue a continué et continue toujours à baisser. Et donc, à un moment donné, j'ai dû accepter le fait que j'avais besoin de le rendre visible en commençant à utiliser une canne. Il y a bientôt 2 ans maintenant. Ça a été une transition extrêmement difficile à faire. Et ça m'a pris longtemps à l'accepter, à me préparer mentalement, psychologiquement, émotionnellement. Pour moi, la canne, c'était la canne blanche qui voulait dire qu'on était aveugle et qui définissait la personne qui l'utilisait. Et aujourd'hui, en ayant créé ma propre canne belle, stylée, élégante, c'est un peu une extension de moi aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au début, c'était vraiment une aide médicale presque, qu'il fallait utiliser. Et aujourd'hui, c'est vraiment devenu plus un accessoire de mode que je choisis de porter. Et c'est vrai qu'une fois que j'étais prête émotionnellement, que j'assumais le fait que je devais commencer à avoir une canne, c'est comme si ça m'avait un peu transformée. Quelque part, j'ai comme vécu une espèce d'hyperféminisation avec la canne, peut-être pour contrebalancer un peu l'effet de cette canne, de me dire bah, « maintenant, on me voit avec une canne et du coup, je veux être encore plus belle, encore plus désirable, encore plus stylée pour contrebalancer l'effet du handicap ». Et donc, ça peut paraître superficiel, mais je me suis presque un peu trouvée comme femme au travers de l'ajout de la canne, parce que j'ai vraiment pris beaucoup plus de plaisir à trouver mon propre style, à trouver les habits qui me vont bien, dans lesquels je me sens bien, à me maquiller un peu plus, peut-être à être un peu plus coquette. Je ne me suis jamais sentie aussi belle, en fait, depuis que j'ai commencé à utiliser la canne. C'est en tout cas une transformation qui m'a permise de vraiment me découvrir en tant que femme et de m'assumer pleinement. Je suis de retour à Milan depuis hier. C'est le début du printemps, donc il fait beau, il doit faire 15 degrés. Là, je suis dans un parc, assise avec plein de chiens. Et c'est une belle ambiance printanière qui se découvre. Après, c'est vrai que c'est toujours un peu une réadaptation de venir dans la grande ville. C'est beaucoup de stimulation externe, c'est beaucoup de bruit. Les ambulances, les taxis, les gens qui s'engueulent. Donc, c'est un peu un stress externe que je dois réapprendre un peu à gérer. Après, quand je suis ici, c'est vrai que c'est toujours des belles rencontres avec des personnes intéressantes, des événements culturels chouettes. Donc, je me réjouis de reprendre un peu tout ça. Mon papa est de Milan et donc avec mes frères, on venait souvent ici quand on était petits, adolescents, parce que notre nonna, notre grand-mère paternelle habitait ici. On a toujours des oncles, des tantes, des cousins, cousines. Donc après toutes mes étapes dans le monde, après avoir étudié à Londres, à New York, à Paris, ensuite j'ai été vivre à San Francisco pour exercer le métier de journaliste dans le monde de la tech et des startups. Après, je suis rentrée en Europe, j'étais basée à Londres. Et quand j'ai eu un peu ce moment de transition très difficile où j'ai réalisé que je devais commencer à utiliser une canne, je me suis dit finalement, mais enfin, qu'est-ce que je fais à Londres? C'est une ville énorme, épuisante. J'ai aucun lien émotionnel, aucune attache. Je ne m'identifie pas à la culture anglaise. Ça a été vraiment un choix de cœur de venir à Milan. Je suis très heureuse d'être basée ici, de parler couramment, plus ou moins, presque, l'italien. Et c'était aussi une décision un peu stratégique, entre guillemets, parce qu'avec mon handicap, j'ai besoin de plus en plus d'aide, d'avoir un peu un cadre familial et familier de soutien. Là, à Milan, je retrouve ma belle canne que j'ai fait faire. Donc, ça fait un peu plus d'un an que je travaille dessus avec un ami qui est designer et architecte, qui est un ami de longue date de notre famille et qui était en fait l'assistant de mon grand-oncle Vico Magistretti, qui était un grand designer italien. J'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. J'ai eu une très belle enfance. On allait toujours dans des super villes, voir des musées, des expos, des pièces de théâtre. On allait à la Scala, à l'Opéra. On avait toujours des beaux livres qui traînaient par-ci, par-là, des livres d'art, des livres d'architecture. Donc, c'est vrai que j'ai développé un goût pour l'esthétique assez jeune, où j'ai toujours beaucoup aimé apprécier les belles choses. Elles m'ont toujours beaucoup inspirée. Et voilà, très vite, j'étais un peu confrontée à cette question de l'esthétique, vu que très souvent, ce qui existe sur le marché par rapport au handicap, comme les cannes, comme les chaises roulantes, comme les prothèses, sont souvent médicales, stériles, fonctionnelles. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que c'est quand on est handicapé, on n'a pas le droit au beau, on n'a pas le droit d'avoir accès à des belles choses qui nous font sentir beaux et stylés et fashion. Enfin, je ne voyais pas en fait pourquoi ces deux mondes étaient tellement opposés l'un à l'autre et qu'un excluait l'autre par défaut. Et donc, j'ai un peu puisé dans ce background dans lequel j'ai grandi. J'ai pu travailler avec des artisans incroyables et j'ai dit, mais je veux rendre l'accessible beau et le beau accessible, en fait.
Ça fait un an qu'on y bosse, parce que voilà, il fallait faire tout un design. Initialement, on s'est dit, on fait la canne tout en bois, mais finalement, j'ai réalisé que c'était trop lourd. Et donc, finalement, on n'a fait que le manche en bois. Et en fait, c'est du bois d'olivier. Et il a une espèce de spirale dans le bois pour ensuite recouvrir cette spirale avec du cuir. Et en fait, le cuir aide à vraiment maintenir un bon grip. En fait, c'est vraiment l'idée, c'est de pouvoir bien tenir la canne et être sûr qu'elle ne glisse pas. Et puis après, il y a aussi un bracelet tressé comme ça pour pouvoir enfiler son poignet et bien tenir la canne. Si jamais on la lâche, bah, elle est tenue par le petit bracelet en cuir. Donc ouais, on sent vraiment l'odeur du bois et du cuir. Donc c'est assez chouette comparé au plastique de la canne moche. Après, la partie du bas de la canne, en fait, moi, comme j'adore la couleur or, enfin dorée, je voulais que la partie basse soit dorée. Donc à la base, on avait utilisé du laiton, mais c'était trop lourd. Donc en fait, on l'a fait en aluminium teinté en doré. Et puis en bas, il y a une petite boule comme ça en plastique mat blanche, recouverte un peu d'une semi-coupelle dorée, justement pour qu'elle puisse rouler par terre et passer au-dessus des obstacles, pour que j'ai vraiment un contact constant avec le sol. Et voilà, bah, elle est franchement là, le deuxième prototype, il est déjà beaucoup plus léger. Et là, on fait un peu un troisième prototype qui est en fabrication, où le manche sera un peu plus court, parce que là, il est quand même un peu long. Il est en train d'être fait avec des artisans en Toscane, d'où le nom en fait de la canne Toscane, parce que c'est une combinaison des mots Tuscany et cane. Et puis, bah, voilà, ce troisième modèle, peaufiné, raffiné, testé, approuvé, bah, sera le modèle qui sera exposé à la Triennale au mois de mai pour la prochaine grande expo internationale du musée. Et donc, c'est chouette de voir qu'un travail qui finalement a débuté d'un besoin et d'une nécessité personnelle a vraiment attiré l'attention et le regard d'une bonne manière, vu que maintenant, un des plus grands musées de design en Italie veut l'exposer. Donc ouais, je suis très fière de ma belle canne.
Là, on est dans mon appartement à Milan, dans le quartier de Porta Romana, qui est au sud de la ville. Encore très à l'ancienne, avec le boucher du coin, le poissonnier, le cordonnier. Enfin, c'est vraiment un quartier très vivant, avec des locaux. Donc, moi, j'adore. Donc, il y a un grand, grand corridor lumineux. Sur les murs, ben, j'aime beaucoup les anciennes cartes. Donc là, j'ai une ancienne carte de la Californie que j'avais achetée à San Francisco quand j'habitais là-bas. Et puis, bah, il y a une ancienne carte de Milan qui appartenait à mon père et à sa famille. Et puis après, il y a ma chambre à coucher que j'ai beaucoup décorée parce que voilà, j'adore la déco. Assembler des choses, assembler les couleurs, même étant malvoyante, j'ai un bon œil, disons. Donc ça,
C'est un peu une contradiction, mais voilà, c'est une belle contradiction. Il y a les deux murs qui sont un peu gris émeraude comme ça, parce que c'était très, très blanc, en fait, avec le radiateur, la porte à la salle de bain. J'ai une salle de bain ensuite, tout était blanc, et donc j'avais un peu de peine à délimiter les choses. Alors, j'ai peint deux murs en vert, comme ça, il y a vraiment un très beau contraste. Et en plus, c'est magnifique, donc voilà. Ensuite, si on retourne dans le corridor, à gauche, on entre dans une énorme salle qui est vraiment ma salle préférée de l'appartement. C'est une chambre hyper lumineuse qui donne sur une grande avenue. La nuit, j'ai besoin de beaucoup de lumière pour bien voir. Mais en fait, il me faut une lumière assez spécifique, c'est-à-dire qu'il me faut de la lumière très forte, mais indirecte, parce que sinon, ça m'éblouit. Donc voilà, l'ampoule doit toujours être cachée, mais il faut que ça dégage la bonne lumière. Donc on a passé pas mal de temps là-dessus. Par exemple, les verres que j'utilise, parce qu'un des soucis que j'ai avec mon problème de vue, c'est que souvent je ne verrai pas un verre transparent, et donc je risque de le faire tomber par terre sans faire exprès, et après il se casse. Voilà. Donc j'ai découvert une super marque qui s'appelle Mario Luca Giusti. Et en fait, ils font des choses extraordinaires pour la cuisine en cristal synthétique. Donc, c'est plus élégant et raffiné que le plastique, mais ça reste incassable, en fait. Et ils ont des couleurs magnifiques. Moi, par exemple, j'ai acheté des super beaux verres rouges. Donc, non seulement je les vois, et si je les fais tomber par terre, ils ne se cassent pas. Donc voilà, pour moi, le design inclusif peut et doit absolument être beau. Et c'est-à-dire qu'après, bien sûr, c'est aussi une question de budget, mais on peut tout à fait aussi trouver des choses accessibles. Enfin, moi, j'ai aussi plein de trucs que j'ai trouvés dans les marchés aux puces à des prix hyper bas, qui sont vintage, et qui sont par exemple très colorés, très contrastés. On peut tout à fait trouver ce qui nous plaît, ce qu'il nous faut par rapport à notre budget. Et c'est vrai que moi, ça me nourrit, en fait, d'être entourée de beaux objets, de couleurs. Et tout ça m'inspire beaucoup aussi pour ma nouvelle plateforme Visible Voices, qui sera un peu un vogue pour des personnes avec les handicaps. Mon but maintenant dans la vie, c'est lutter contre cette idée et ce stéréotype que quand on est handicapé, tout ce qu'on utilise ou ce qu'on représente ou ce qu'on porte doit être moche et déprimant. Et quand j'ai meublé mon appartement à Milan, c'était vraiment important pour moi d'allier les deux, l'accessible et l'esthétique. J'ai toujours acheté, collectionné des tonnes de magazines de mode. Et là, en fait, j'ai un des Vogue qui est sorti en mars 2024 et dans lequel j'avais écrit un article en fait sur mon handicap et comment je vois le monde et mon rapport avec la mode. Donc ouais, j'en suis très fière. Et ensuite voilà, si on sort, on arrive, on retourne dans le couloir et puis tout au bout en fait, au fond, il y a la cuisine. Et là, par exemple, je l'ai aussi pas mal décoré. Donc voilà, c'est un appartement très coloré. Il faut du contraste, donc j'en ai fait vraiment un petit cocon magique et magnifique. C'est vraiment un peu Bérénice au pays des merveilles. Et si on retourne dans le corridor, il y a aussi une salle de bain d'invités. Et puis un petit dressing où j'ai mes habits, mes chaussures, mes cannes. Et puis j'ai un énorme miroir qui est illuminé par au-dessus et derrière pour que je puisse bien me voir quand je fais ma toilette, quand je me maquille. Donc ça m'aide beaucoup. Et voilà. Quand je me regarde dans le miroir, alors maintenant je me suis habituée, mais c'est vrai que parfois c'est un peu déstabilisant parce qu'il y a des bouts de mon visage que je ne vois plus en fait. Si je me regarde, je verrai mes deux yeux, mais si je dois voir mon nez, en fait, il faut que je baisse le regard et là je vois mon nez. Et après, il faut que je baisse mon regard pour voir la bouche. Et voilà, que je parte à droite pour voir mon oreille droite, que je porte le regard sur la gauche pour voir mon oreille gauche. Enfin, en fait, c'est un peu comme si je devais toujours scanner un peu l'image pour la reconstruire. Et parfois, mon cerveau me joue un peu des tours parce que j'aurais l'impression de tout d'un coup avoir un troisième œil au-dessus d'un des yeux. Donc, un peu à la Picasso, en fait. Donc, c'est vrai que moi, j'essaye de prendre ça un peu à la légère en me disant, ben voilà, je me vois de manière super originale. Mais ce n'est pas toujours évident, surtout pour me maquiller, par exemple, parce que j'ai beaucoup de trous dans la vision, des blind spots, comme on dit en anglais. Ce qui veut dire que, bah, en fait, les cellules ne sont plus actives à cet endroit-là, donc elles n'arrivent plus à capter l'image. Et d'où devoir déporter mon regard pour pouvoir reconstruire un visage. Donc voilà, j'ai appris à me maquiller en fait les yeux avec les deux yeux fermés parce que c'est trop compliqué quand je ferme qu'un œil. Et donc j'ai vraiment appris à me maquiller avec le feeling. Donc là, par exemple, je me prépare pour aller à la Scala, à l'Opéra, et je vais me maquiller. Alors c'est pas, j'ai pas de maquillage inclusif dans ce sens-là, parce que souvent le maquillage inclusif c'est par rapport à l'ergonomie des produits qui sont fabriqués d'une certaine manière pour qu'on puisse les ouvrir plus facilement, les tenir plus facilement. Moi, en fait, c'est vraiment du maquillage entre guillemets normal, mais c'est plutôt dans la manière de l'appliquer que ça change. Justement, de fermer les deux yeux pour mettre du fard à paupières, parce que je sens vraiment avec la brosse quand j'applique ce fard à paupières. Et puis le crayon noir pour les yeux, le eyeliner, je le mets aussi avec les deux yeux fermés. J'ai appris à vraiment sentir, à aller ras les cils. C'est vrai qu'on complimente toujours beaucoup sur mon maquillage, donc je suis assez contente d'avoir développé une bonne technique. Et puis, bah, je regarde toujours un peu, je prendrai un peu de démaquillant sur un coton et je contournerai un peu l'œil, juste si jamais il y a un peu de fard à paupières qui est tombé sur la joue ou que j'ai un peu dépassé. Mais globalement, j'ai appris à super bien me maquiller en étant malvoyante. J'ai toujours eu une grande, grande appréciation de la musique, des mélodies, des symphonies. En fait, les notes musicales, je les sens vibrer en moi, mais je pense que le fait que je suis malvoyante, c'est encore plus fort et intense chez moi parce que mes autres sens sont plus développés. La musique me nourrit, en fait. Elle m'accompagne tous les jours. Je l'écoute en cuisinant, quand je prends une douche. Enfin, voilà. C'est vrai que la musique classique, notamment, a toujours fait partie de ma vie. Mes parents écoutaient souvent la musique classique le week-end en lisant le journal, nous emmenaient à l'opéra. Et c'est vrai qu'une pièce mélodique, enfin un morceau qui me touche profondément est de Pietro Mascagni, dans l'œuvre Cavalleria Rusticana, c'est le morceau qui s'appelle Intermezzo, qu'on joue à l'entracte. Et je l'ai entendu pour la première fois, il y a plusieurs années, quand j'ai regardé le Parrain 3 de Coppola. C'est la dernière scène du film, quand ils sont à l'opéra de Palerme, en Sicile, qui sortent de l'opéra, ils sont sur les marches, et la mafia essaie d'assassiner le personnage d'Al Pacino, il rate, et il touche sa fille, qui est jouée par Sofia Coppola, qui, elle, tombe morte dans les bras de son père. Et ce qui est vraiment très puissant et bouleversant avec cette scène, c'est qu'on le voit hurler de douleur et de tristesse en tenant sa fille morte dans ses bras, mais on ne l'entend pas. On entend en fait le morceau Cavalleria Rusticana qui est très bouleversant. Après, je l'ai entendu en live à la Scala il y a quelques mois. C'était, voilà, j'avais les larmes aux yeux. C'est un morceau qui vraiment me touche à une profondeur qui est vraiment quasi inexplicable en fait. Ça touche mon âme et ça provoque des émotions et des sensations absolument extraordinaires.
Sopra i sedili sono riservate a trolley, bagagli molto voluminosi. Vi ringraziamo per la collaborazione.
Je suis dans l'avion, en route pour Rome, où je vais faire mon contrôle annuel des yeux. C'est une fondation qui est très spécialisée dans la maladie rétinienne que j'ai. Donc, j'y vais une fois par année pour faire un contrôle. Alors bon, ça fait 20 ans que je fais ces contrôles annuels et à chaque fois, c'est toujours un peu le même bilan. C'est-à-dire qu'il y a une perte de vue graduelle, ça continue et il n'y a toujours pas de traitement. Donc voilà, j'ai jamais beaucoup d'espoir en y allant. Il n'y a pas grand-chose qui en sort, mais bon, c'est important de monitorer l'évolution. Et puis à Rome, c'est vraiment les premiers qui ont pris une approche un peu différente, en fait, un peu plus encourageante. Il y a 2-3 ans, ils m'ont donné des suppléments de safran et curcuma qui aident un peu à protéger les cellules dans les yeux. Donc là, l'idée, c'est un peu de maintenir la vision qui me reste, enfin de la préserver. Donc, on décolle bientôt. Je suis à l'aéroport de Rome. Je voyage beaucoup. J'ai toujours eu la chance de pouvoir beaucoup voyager en famille. Malgré mon handicap, je continue parce que ça fait partie de moi. D'être un peu nomade comme ça, parce que chaque endroit m'apporte quelque chose, en fait, dont j'ai besoin, dont j'ai envie. Voilà. Maintenant, je voyage plus seule depuis au moins un an. En fait, les années avant que je décide de prendre une canne, ça devenait de plus en plus stressant et épuisant pour moi de voyager seule parce que bah, voilà, je commençais à moins bien voir et je devais tout le temps me concentrer, faire attention de ne pas rentrer dans quelqu'un. Enfin, j'avais de la peine à trouver les toilettes. Et pendant longtemps, je résistais. Puis bah, finalement, j'ai fait ce pas et j'ai décidé de plus voyager seule, de m'enlever ce stress. Je voyage souvent avec ma maman, mais aussi avec mes frères ou des copines ou ma cousine. J'ai un super groupe de famille et d'amis et donc on fait toujours des super voyages ensemble. J'ai aussi finalement accepté de demander l'assistance à l'aéroport. Parce que c'est vrai que même avec la canne, bah, je devais quand même beaucoup me concentrer à l'aéroport, le monde et tout. Et puis la personne qui voyage avec moi, pour elle aussi, c'était un peu stressant. Donc, ils viennent me prendre en chaise roulante et je peux me relaxer. On m'amène partout, on me fait passer par des raccourcis et ça m'enlève un stress énorme en fait. Je suis à la Fondazione Bieti à Rome, dans la salle d'attente. Je vais faire toute une série d'examens qui vont durer 2-3 heures et après un débrief avec la médecin qui est une spécialiste de la rétine. C'est jamais très drôle de faire tous ces examens parce que c'est très fatigant émotionnellement. Mais voilà, je suis avec ma maman qui est toujours à mes côtés, qui m'accompagne et qui me soutient. Donc j'ai des super bonnes énergies. Et puis voilà. La journée est terminée et je prends un bon bain chaud, relaxant et qui sent bon pour me détendre. J'ai fait toutes les séries d'examens et après j'ai vu ma médecin et les nouvelles sont plutôt bonnes, entre guillemets, dans le sens où depuis 2-3 ans, il n'y a pas grand-chose qui bouge. Tous mes efforts pour essayer de préserver la vision qui me reste semblent réussir. Je compte beaucoup sur mon œil gauche, qui est celui qui va bien. Je vais le protéger au maximum. Et puis, en fait, avec cette maladie, il peut y avoir pas mal de complications. Et dans mon cas, il y a des cataractes qui commencent à se former sur les deux yeux. C'est en fait le corps qui essaie de protéger la rétine du soleil et des lumières trop fortes. Mais en conséquence, ben, ça fait qu'on voit un peu moins bien, quoi. La prochaine étape, ce sera de voir un chirurgien spécialisé dans les cataractes un peu compliquées, comme dans mon cas. et de voir un peu ce qu'ils proposent voilà, pour la suite.
Moi, je dis pas que je suis handicapée, parce que j'ai l'impression que c'est un terme qui me définit un peu de manière entière et complète. Je dis toujours, ben voilà, j'ai un handicap visuel, parce que ça fait partie de moi, c'est une partie de moi, mais ça ne me définit pas. Et après, si on veut être un peu plus spécifique par rapport au handicap que j'ai, je dis que je suis malvoyante, parce que je vois mal, mais je vois encore et toujours des choses. J'ai eu les premiers symptômes à mon adolescence, donc vers les 14-15 ans. Et en fait, ce qui se passe avec une dégénérescence de la rétine, c'est qu'on commence à mal voir la nuit ou quand il y a peu de lumière. Et donc, quand je commençais à sortir un peu en boîte, dans des bars avec des copains-copines, bah, je me disais, tiens, c'est marrant, je vois pas ça ou je reconnais pas cette personne. Et puis, c'est vers 18-19 ans, quand j'ai essayé de passer mon permis de conduire et que j'ai raté 3 fois la pratique, qu'on a commencé à se poser des questions. Parce que voilà, j'ai toujours été très myope. Je portais des lunettes petites et après des lentilles. On s'est toujours dit que c'était lié à ça. Mais après, voilà, quand on a fait des examens plus poussés, les médecins ont posé le diagnostic, c'est rétinite pigmentaire. Et ce qui se passe, en fait, c'est que les photorécepteurs dans la rétine, petit à petit, commencent à mourir. Et donc, il faut de plus en plus de lumière pour voir. Moi, cette année, je vais avoir 38 ans. Donc, ça fait plus de 20 ans que je vis avec cette perte de vue graduelle. Au début, c'était surtout la nuit dans les endroits sombres. Mais après, c'est aussi la journée que ça devient compliqué, parce qu'il y a de plus en plus de trous dans la vision, en fait, qui se forment. Ce qui est bizarre et étrange, c'est qu'on a l'impression d'avoir une image complète. Mais c'est parce que notre cerveau, en fait, qui est très doué, fait du Photoshop en permanence. Et donc, il essaye de combler les trous de la vision en faisant du Photoshop. Et moi, j'essaie toujours d'expliquer aux gens, de dire, bah, en fait, c'est comme si on prenait 2 modèles de télé différents. C'est-à-dire que les gens qui ont une vision parfaite ou quasi normale et fonctionnelle, ils verront un écran aux définitions super précis, contrasté, lumineux, très clair et net. Tandis que quelqu'un comme moi verra un écran vraiment en définition très basse. Il y a peu de contraste, peu de luminosité, peu de pixelisation, c'est pas une image bien définie. Et ça crée de la confusion, en fait, parce qu'on n'est jamais vraiment sûr de ce qu'on voit, on n'est jamais vraiment sûr de la délimitation des choses. Maintenant, j'ai plus de peine à reconnaître les visages, je suis très vite éblouie. Donc, en fait, c'est des bouts d'informations visuelles que mon cerveau essaie de photoshopper en permanence. Mais c'est clair que c'est épuisant. Et donc, je suis très vite fatiguée, parce qu'en fait, je dois beaucoup me concentrer pour voir, pour interpréter, analyser, faire du sens, du non-sens en permanence.
Mon désir de rendre l'accessible beau et le beau accessible m'a mené à créer une plateforme qui s'appelle Visible Voices. C'est un peu en vogue et net-à-porter pour les personnes handicapées, c'est-à-dire déjà un site web canon qui est hyper beau esthétiquement, évidemment très accessible, mais on ne compromet jamais sur l'un ou l'autre. Donc, ce sera un site web avec du super contenu, très nuancé sur les handicaps, mais tout autour de la mode, de la beauté, de l'art, du design, vraiment pour approcher le sujet des handicaps à travers différents filtres, différents points d'entrée, pour voilà, démarrer des nouvelles conversations autour des handicaps. Et pour le côté net-à-porter de la plateforme Visible Voices, en fait, ce sera un e-shop qui vend des marques super cool et stylées. Par exemple, des cannes colorées, des très beaux bijoux à rajouter sur les appareils auditifs pour les gens qui sont sourds ou malentendants, des produits de beauté inclusifs et accessibles. Voilà, ce sera toute une panoplie de marques chouettes pour les personnes handicapées et leur offrir quelque chose dont ils ont envie, pas seulement dont ils ont besoin. Donc, c'est vraiment fashion meets function pour représenter un peu qui on est comme personne, pas seulement avoir quelque chose qui représente notre handicap. Et pour ce site, je pars pour Londres aujourd'hui. Mon cofondateur est basé là-bas. Et on organise un photoshoot demain pour photographier 8 mannequins qui ont des handicaps différents, pour montrer différents visages des handicaps, montrer qu'il y en a des plus visibles, des moins visibles. Et l'idée, c'est vraiment d'être fière de qui on est et de se montrer pleinement, en fait. Donc, je me réjouis énormément pour ce photoshoot demain. J'ai vraiment hâte.
À destination de Londres this morning, good afternoon, ladies and gentlemen. Please observe our carry-on baggage regulations in economy class on Swiss flight 348 to London Heathrow.
Je suis en route pour le photoshoot. Je suis dans un black cab avec ma maman, Christine, qui m'accompagne. Et on va retrouver maintenant les mannequins. La journée sera partagée en 3 séances. 2 le matin, 3 en début d'après-midi, 2 en fin d'après-midi. Il fait hyper beau, ce qui pour Londres est extraordinaire. Et je me réjouis de rencontrer ces personnes exceptionnelles. Je suis au lit après une journée absolument extraordinaire. J'ai mal aux joues tellement j'ai ri et souri et tout s'est déroulé en fait de manière tellement simple, fluide, naturelle, avec tellement de bienveillance. Et déjà, enfin, c'était une journée sublime à Londres, il faisait 20 degrés, grand soleil, donc c'était une super énergie pour démarrer la journée. La matinée, on avait 3 mannequins, donc 2 en chaise roulante et une neurodivergent, neurodivergente, je crois qu'on dit. Et donc voilà, on a fait des photos de chacun individuellement, ensuite des photos en groupe, on a mis un peu de musique, on a vraiment bien rigolé. Et puis l'après-midi, il y avait encore 4 mannequins et c'était aussi de nouveau une combinaison de handicap visible, invisible. Il y avait une jeune femme avec une trisomie 21, qui était d'ailleurs sur une des couvertures de British Vogue il y a 1 ou 2 ans. Et en fait, c'était un groupe d'artistes, d'acteurs, de chanteurs, de danseurs, d'athlètes paralympiques. Enfin, c'était vraiment... ça redonne espoir en l'humanité quand on est entouré de gens comme ça, qui sont vraiment bienveillants, d'une gentillesse exquise, créatifs, intelligents... beau, enfin, c'est vraiment des belles personnes. Et ils ont tous adoré le projet de Visible Voices et ça va devenir un peu les ambassadeurs de la plateforme, en fait. Ça va devenir un peu nos visages, nos voices, nos voix. Donc, j'ai vraiment hâte de lancer cette plateforme. J'espère vraiment que ça va encourager plus de personnes à être visibles, sans honte, sans stigma, bien avec eux-mêmes. Et le hashtag, c'est Be Visible. Et j'espère vraiment que ça va aider à changer la perspective autour des handicaps.
Cet épisode a été réalisé par Séverine Cassard, mixé par Baptiste Coulion, supervision Fanny Boyon. Ma différence à moi est un podcast original de France Inter.